Dans les épisodes précédents d'Ultimart, le podcast, l'équipe d'Ultimart Convention a été voir Mormoi sans hésitation.
Je trouve qu'ils n'arrivent pas, avec tout leur humour, à finalement détruire la magie de cette histoire. Et je me suis dit vraiment, ce potentiel est juste incroyable.
À peu près 3 gags sur 4 qui tombent à plat parce que justement, il n'y a pas de salut. Effectivement, si on a vu ces 3 acteurs-là à la place des 3 autres dans les vraies vies, ça aurait peut-être été bien meilleur.
Moi, je ne peux pas conseiller quand même aux gens d'aller voir ce film parce que moi, je suis quand même assez ennuyée.
Les épisodes 1 à 10 de la saison 2 de The Vampire Diaries furent évoqués.
C'est super dense, c'est super resserré, et il se passe plein de choses. Ça annonce vraiment toute la saison en fait.
Moi j'étais soufflée.
Justement, que je le savais et que la scène m'a pas du tout touchée. Pas parce que je le savais, donc j'ai pas eu la surprise, mais aussi que c'était mal mis en scène.
Ils montrent tellement bien.
Voilà, ils montrent telle profondeur.
Oui, mais ça veut dire aussi on redistribue les cartes et les règles sont. Il n'y a pas vraiment de règles.
Ouais, de l'envers à lui, c'est un peu compliqué.
Enfin, mon sujet préféré, Damon.
Bonjour à tous, bonjour Yaël, bonjour David.
Bonjour Juliette.
Bonjour.
Alors, bienvenue dans Ultimart, le podcast, épisode 2. Partie 2. La dernière fois, on est resté sur le suspense de pourquoi David n'aime pas la saison 2. On va tout vous révéler cette fois-ci, donc dans une partie qui faisait suite directement au podcast de la semaine dernière, mais qui était beaucoup trop long pour le mettre en ligne en une seule partie. Et à la fin, on vous a rajouté un petit enregistrement qu'on a fait quelques jours après avoir vu l'épisode 11 de la saison 2, donc l'épisode juste avant la pause de Noël. Donc voilà, ça ce sera notre petit bonus de la fin. Voici donc Ultimart le podcast, épisode 2, partie 2. Alors vas-y David, commence, dis-nous tout le mal que tu penses de cette saison 2.
On puisse te dire pourquoi t'attends.
Exactement.
Alors, j'ai abordé la saison 2 avec l'a priori inverse de la saison 1 où on m'avait dit les 5 premiers sont un petit peu lents, sont pas très très bons, ça commence un petit peu à prendre de l'ampleur après. Et on m'avait dit la saison 2 c'est miraculeux, c'est génial, ça va encore plus loin, etc. Donc j'ai commencé la saison 2 avec un mélange d'excitation, en même temps petit a priori, justement parce qu'on m'avait dit que c'était bien, je me suis dit oula, en même temps, t'as tous les moyens et toutes les d'être déçu. Et dans le mille. Pourquoi il y a beaucoup d'éléments qui sont un peu liés en plus, indirectement. Le premier, c'est que je me suis évidemment attaché au personnage d'Elena d'un point de vue de. Identification, parce que c'est l'héroïne, c'est elle autour de tout tourne autour d'elle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la saison 2, tout tourne autour d'elle, tout arrive à cause d'elle, mais on la voit quasiment plus. Et pour une raison toute bête, c'est qu'évidemment, elle fait l'actrice fait un deuxième rôle, donc faut le temps de tournage, etc. Elle n'a pas le temps de tourner plus que ça, et en plus, même le temps à l'écran, le temps au scénario, fait que comment elle s'appelle ?
Catherine
est à l'écran, évidemment.
Comment elle s'appelle ?
Évidemment, Elena. Non, mais j'ai son nom qui me vient en russe, comme le dernier épisode que j'ai vu, l'avant-dernier, il s'appelle Katerina. Pendant tout l'épisode, ça me vient comme ça dans la tête.
C'est vulgaire, mais c'est pas grave.
Je trouve déjà que ça manque un peu d'Elena, et pour moi, quand elle est là, j'ai plus d'empathie, et me sens plus impliqué dans l'histoire. Et là, il y a beaucoup d'épisodes où elle est pas là, et où en gros, c'est tout le monde, c'est Bonnie, c'est son frère, c'est Stephen Damon. Qui font des choses pour elle sans qu'elle soit impliquée. D'ailleurs, je pense que les scénaristes se sont très bien rendus compte parce que les 2-3 derniers épisodes, c'est l'enjeu. C'est arrêter de me mettre hors jeu et je veux agir par moi-même et laissez-moi faire. C'est ce qui se passe dans le dernier épisode où elle décide de se sacrifier, où elle dit mais arrêtez de tout vous sacrifier pour moi, c'est à moi, c'est moi qui suis concerné, c'est moi le nœud du problème.
Mais d'ailleurs, ça, j'ai pas très bien compris le truc parce que si elle sacrifie, ça veut pas dire que tous ses potes aussi doivent se faire sacrifier? Non, parce que apparemment, sur le sort, c'est elle, mais c'est aussi Caroline, c'est aussi Tyler, c'est aussi Bonnie. J'ai pas trop saisi en quoi son sacrifice sauvait tout le monde.
Non, elle a surtout peur que pour l'atteindre, Damon et Stephen se fassent tuer en fait. C'est surtout ça, c'est surtout les deux qu'elle veut protéger en premier lieu.
Donc les deux vampires qui peuvent se sauver, elle les protège.
C'est ça,
mais
c'est un peu bizarre.
Potes sont ses potes depuis qu'elle est gamine, eux ils peuvent crever, c'est ça.
C'est ça, un peu. C'est vrai que c'est un peu bizarre, oui.
C'était pareil, il y avait deux trois choses bizarres pareil, dans le scénario qui m'ont un peu troublé par rapport à la saison qui était en béton. C'est Catherine qui dit, quand elle a Jérémy dans la tombe, je ne peux pas tuer Jérémy parce qu'il a la bague. Mais une bague, ça ne peut pas se retirer.
Oui,
pas
ça m'a
non, elle ne veut pas le retirer. Elle veut avoir une elle pourrait le tuer, mais elle ne veut pas le tuer. C'est juste, elle veut le torturer.
Oui, c'est bizarre, mais la façon dont elle le dit est un peu bizarre.
Bon, voilà, Elena, pour moi, le seul moment où elle revient dans l'action, et là, j'ai souri, j'ai fait, ah, c'est une scène très très bien faite, et en plus, c'est assez original dans la mise en scène. Et justement, d'un seul coup, il se réveille un peu, il est temps qu'Elena revienne dans l'action. C'est quand, et c'est très drôle, c'est quand Stephen saute dans le puits, qui lui dit, oui, tu vas voir, j'en ai pour 2 secondes, je saute dans le puits, je prends la pierre de lune et je ressors. Et elle a fait, ah bon, bah c'est cool, et lui, il saute, ah, au secours. Et là, j'ai fait, ah, c'est cool. Et là, d'un seul coup, elle se remet en action, elle saute, elle le sauve, elle va dans le puits, elle cherche. Enfin, et là, je me suis dit, waouh, enfin, Elena reprend un peu du poil de la bête. Et c'est en même temps toute l'histoire des derniers épisodes. C'est que je pense que les scénaristes se sont rendus compte qu'ils l'avaient un peu mise en périphérie de sa propre histoire, en fait.
Moi, je pense que c'était nécessaire, en fait. Je pense que pour que le personnage prenne la dimension qu'il prend à la fin, c'est-à-dire qu'elle prenne ce côté indépendant, ce côté combatif, etc., il fallait qu'elle soit mise à l'écart pour qu'elle réalise elle-même. Parce que justement, dans la saison 1, enfin, j'ai pas tout vu de la saison 1, on est d'accord, mais je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus... Je l'aimais pas trop dans la saison 1, en fait. Je la trouvais toujours un petit peu les garçons vont protéger, un peu molle,
dis-le, c'est
ouais,
ce qu'on pense.
Molle, voilà. Et je pense qu'il y avait besoin justement de ce temps où on s'intéresse aux autres personnages et où elle est volontairement mise à l'écart pour pouvoir revenir et pour pouvoir faire ce chemin-là elle-même, justement dans l'histoire. Quoi.
Mais justement, c'est très intéressant. Ça fait beaucoup, j'aurais préféré justement qu'on
fasse
ce chemin qu'elle fait à l'écart, que même si on peut la mettre à l'écart, mais on peut la suivre, être pendant qu'elle est à l'écart. Alors que là, on a quasiment des épisodes où son mot, j'ai quasiment
pas
paquet.
Moi,
je pense que sur les 6 premiers épisodes, on doit la voir 15 minutes à l'écran. C'est-à-dire qu'on
voit. C'est pas vrai.
Non,
on voit beaucoup Catherine, on voit énormément Catherine. Mais
non, je te jure, mais même, c'est pas vrai.
Non, mais Elena, non.
Tu vois ce que tu veux dire, mais c'est surtout, je pense que c'est. En fait, je pense que c'est surtout. C'est un peu vrai, et en plus, c'est accentué parce que dans l'épisode 7, c'est encore plus le cas. Dans l'épisode 7, pour le coup, elle est complètement à l'écart. C'est l'épisode Masquerade où il y a le bal costumé.
Ah
et
oui.
Là, pour le coup, elle passe la moitié du temps avec Jenna à être ailleurs, et ensuite elle sert juste de poupée vaudou à Catherine, entre guillemets, quand ils essayent de blesser Catherine et c'est elle qui prend les coups.
Oui, effectivement.
Ouais. Enfin, elle prend aussi les coups. Moi je pense que c'était. Non, mais j'entends ce que tu dis, David, et j'y avais pas spécialement pensé, mais t'as probablement raison. Moi aussi, je la trouve un peu molle, donc en fait, elle m'a pas trop manqué. Parce que c'est ça le problème.
Non,
c'est
ça,
que...
en fait, oui, voilà.
Moi, j'ai plutôt l'impression que. Tu vois, j'ai entendu ça de la part d'une blogueuse américaine et je suis assez d'accord, c'est que des fois, il y a des scènes entre Catherine et Elena, dans l'épisode 9 notamment, où tu te dis, oh là là, la nana qui joue Catherine, c'est une super actrice, par contre, celle qui joue Elena, un peu moins.
Exactement, je me suis fait la réflexion super souvent.
Alors que c'est la même actrice, donc clairement, elle est tout aussi bonne dans l'un comme dans l'autre, mais Catherine a plus d'épaisseur, et d'ailleurs, c'est un souci, c'est-à-dire que c'est pas tant qu'elle est en marge et qu'on la voit pas souvent à l'écran, c'est que ils sont encore en train de chercher ce qu'ils vont raconter avec ce personnage, et je trouve qu'ils sont en train de le trouver à peine depuis quelques épisodes. Maintenant, cet écart était nécessaire pour développer les personnages tels que Bonnie et Caroline. Je l'appelle Caroline maintenant. Caroline. Et surtout pour développer ce côté Scooby Gang, quoi. Le côté de du gang, du groupe, du fait que tout d'un coup, avec ce moment à mourir de rire, où Elena essaie de faire semblant qu'elle parle plus à Stéphane, donc elle est éloignée et il communique par texto. Et à un moment, il lui envoie un texto, il dit « Je suis avec... Quelqu'un est parti ?»
Non.
J'ai entendu un bruit bizarre, d'accord. « Je suis partie avec... Je suis avec Bonnie et Damon. » Et t'as là, il fait « Comment ça, Bonnie et Damon ? Qu'est-ce que cette histoire ?» Enfin, voilà, et
oui,
ça
oui.
C'est un peu le truc, Jérémy qui passe son temps à débarquer à la maison, Damon qui apparemment tous les matins accompagne Caroline dans son rituel pour se préparer, je ne sais pas si c'est remarqué. On a l'impression que tous les débuts de journée, ils les passent ensemble.
Oui, tout à
fait. Ça, c'est une espèce de... Enfin voilà, c'était nécessaire de développer l'univers, donc effectivement, c'est Elena qui en a payé le prix. Mais je te dis, j'ai l'impression que c'est en même temps ça qui va leur permettre maintenant de
d'encore mieux rebondir, quoi, et puis de
trouver...
En tout cas, ça m'a... Mais en tout cas, ça m'a manqué au début de saison. Mais de toute façon, la deuxième chose qui est un peu liée à ça par rapport au personnage d'Elena, ce qui m'a manqué aussi, Et c'était déjà peu présent en saison 1, mais ça y était quand même. C'est ce que j'appellerais le quotidien. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de voir en quoi cette histoire totalement incroyable et fantastique influençait le quotidien de cette fille, ou même de son frère, ou de sa tante. C'est-à-dire, comment ces gens normaux, a priori, d'un seul coup, sont totalement chamboulés par cet univers et cette mythologie. Et pour moi, maintenant, il n'y a plus que des épisodes mythologiques. Et déjà, la saison 1 avait très peu d'épisodes où ça respirait, à part l'épisode justement à la prison ville, où ils font la fête déguisée. Années 70-80, il y a quelques épisodes qui respirent un peu plus, mais il y en a très peu. Mais ça manque pour moi de années respiration. Années
70-80
50. ça manque de...
bon, c'est pas dit... exactement les mêmes fringues, mon chéri, années 70. Tu vois, c'est Happy Days ou That 70 Show, c'est pas vraiment le même truc.
Mais ça manque de... Je trouve que ça manque de respiration, ça manque de moments où justement on voit les conséquences sur le quotidien. Et pour moi, c'est ça avance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais trop... Et là, c'est, pour moi, c'est vraiment un peu trop excessif dans le côté on avance tout le temps. Et ça manque de quelques scènes, de quelques minutes où les personnages se posent un peu.
Quand tu m'as parlé de ça la première fois, ma première réflexion, c'était oui, mais c'est parce que Buffy te manque. C'est que c'est quelque chose qu'il y avait dans Buffy, mais c'est pas le propos de Vampire Diaries. Maintenant...
C'est quelque chose qui était quand même...
Bah, ceci dit, moi, j'ai l'impression... Enfin, dans le début de saison 2, j'ai l'impression qu'en fait, pour... Enfin, ce que j'ai vu, c'est que pour Elena, Damon, Stephen, on a l'impression que la mythologie et alors je parle pas des petites scènes du quotidien qui effectivement, ça, j'en voudrais bien aussi quelques-unes, ça me ferait du bien. Mais après le côté impact de la mythologie sur le ressenti, enfin sur les personnes en tant que personnes réelles. Pour moi, Elena, Stephen, Damon, c'est déjà acquis dans la saison 1. On a l'impression qu'ils ont déjà c'est plus un problème, mais par contre, c'est beaucoup porté par Tyler et Caroline. Où là, c'est très intéressant, tout leur, justement, leur combat personnel avec ces choses qu'ils maîtrisent pas du tout, qui sont nouvelles pour eux, et ça rend les personnages vachement attachants, et on retrouve un petit peu ça vraiment à travers eux deux. Mais donc, du coup, effectivement, c'est pas les personnages principaux, donc ça se donne pas tout à fait le même ressenti.
C'est tout à fait ce que j'allais dire dans les derniers épisodes, et c'est les derniers mois. Un petit peu plus que les 6-8 premiers, c'est que dans les derniers, justement, quand Caroline rentre chez elle, on la voit effectivement chez elle, on la voit un peu plus vivre, on la voit un peu plus se poser, et surtout, pour moi, c'est le genre de scène qui manque vraiment et qui avait beaucoup dans la saison 1, c'est la scène entre Caroline et sa mère, la scène de fin, elle est magnifique, la scène où elles sont toutes les deux enfermées et où elles ont une espèce de.
Là, j'ai pleuré.
Ah oui, voilà. C'est là aussi que j'ai pleuré. Mais d'ailleurs, je crois que c'est juste avant le break-up. C'est la même scène. C'est juste, ils te tuent.
Oui, c'est assez terrible.
Et surtout, c'est sur une chanson incroyable. Et je viens de réaliser ce que c'était. C'est une chanson qui s'appelle Wires, d'un groupe qui s'appelle Athlete, qui était déjà dans Véronica Mars. Dans Véronica Mars, dans Grey's Anatomy. Enfin, en tout cas, cette chanson, je l'ai depuis très longtemps sur mes playlists et elle est juste incroyable. Et je pense que c'est peut-être là, effectivement, qu'elle hypnotise sa mère.
Possible.
Mais voilà, mais cette scène-là, pour moi, c'est exactement ce qui manque. C'est-à-dire que ça commence par une scène très décontractée, entre guillemets, où les personnages se posent, discutent, ou d'un seul coup, psychologiquement, ils arrêtent de courir, ils se posent, on comprend qu'est-ce que Caroline est devenue, comment le fait d'avoir été transformé en vampire, ça l'a permis de gagner en maturité, de devenir plus adulte, alors que, ironiquement, elle va s'arrêter de vieillir. Mais justement, elle a grandi, et qu'est-ce que ça veut dire pour elle, qu'est-ce que ça veut dire pour son entourage, pour sa mère, qui était un personnage quand même très important, un peu plus absent là, mais très important dans la saison 1. Et pour moi, cette scène, c'est le genre de scène qui manque, où d'un seul coup, le personnage se pose, vit quelque chose d'humain, quelque chose de fort, quelque chose aussi d'un peu drôle, parce qu'il y a pas mal d'humour dans cette scène, c'est une certaine légèreté, c'est ça qui rend la scène magnifique. D'un seul coup, il y a une vraie légèreté dans la relation entre la mère et la fille. Elle parle du fait qu'elle est un vampire sans qu'il y ait d'un seul coup de vrais soucis. Il y a quelque chose d'assez magnifique, et à la fin, d'un seul coup, il y a ce côté beaucoup plus dramatique où elle lui fait tout oublier, et ce qui rend la scène encore plus belle. Mais c'est ça, ce genre de scène, c'est la scène qui m'a beaucoup plu. Et c'est le genre de scène qui pour moi justement manque, ouais, les personnages.
Il y a une autre scène qui fait un peu écho et qui m'a beaucoup beaucoup plu dans le dernier épisode, c'est quand Caroline et Tyler regardent les vidéos de son frère qui se transformait en loup, et la façon dont lui réagit, et ce côté pareil où il se pose un petit peu et où on ressent vraiment son enfin l'émotion de Tyler et l'horreur de la situation, quoi, l'horreur de cette mythologie justement qui envahit son quotidien et qui, enfin, c'est assez, enfin, cette scène aussi m'a beaucoup donne vraiment plus de
je suis assez d'accord que à la fois sur les scènes dramatiques qui prennent le temps d'être dramatiques comme ce que vous décrivez et justement les scènes plus légères pas exactement comme les chaussettes de Buffy, mais enfin moi il y a quand même eu ce moment incroyable. C'est quelqu'un sur le forum d'Ultimark qui a ça comme signature. C'est une petite vidéo du moment où Damon joue au Pictionary et essaie de faire deviner Danse avec les loups. Et Caroline dit Puppy with a tutu. C'est un chiot avec un tutu. Devine. Et ça, c'est le moment de légèreté où c'est dans l'épisode 4 où il y a cette espèce de barbecue qu'organise Jenna. Où elle invite Mason, Alric, Caroline, Damon, et c'est un peu n'importe quoi parce que tout le monde se déteste à moitié.
Ouais.
Donc ça, c'est le côté, j'ai envie de dire, c'est le côté un peu Gossip Girl. Ça, effectivement, ces petits côtés, on organise une fête, un barbecue, ça manque, je suis d'accord. Surtout, j'ai envie de dire, ce qui me fait peur, c'est que je la trouve passionnante, cette saison 2. Je suis passionnée par tout ce qui se passe. La moitié des choses, tu les vois venir, mais c'est pas grave. La relation entre Bonnie et Jeremy qui commence à se développer depuis l'épisode 8, tu te dis ça y est, ils vont s'embrasser, non, ils s'embrassent pas. Mm. Et en même temps, tu sais que ça va, enfin, tu sais que c'est là et ils se cachent pas du fait que ce soit là, cette tension. Mais en même temps, tu sais pas ce qui va se passer. Pareil entre Rose et Damon, il y a exactement la même problématique. Mm-hmm. Et en même temps, cette surenchère d'événements, de changements dans les personnages. Je suis amoureuse de Matt, mais j'aide Tyler, dans 3 épisodes je vais être avec Tyler et Matt va être jaloux. Ça me fait très peur parce que je me dis, mais combien de temps ils vont tenir? Parce que le fait qu'ils soient dans en circuit fermé, c'est-à-dire que quand on a un truc surnaturel, par exemple Buffy est un bon exemple, l'ennemi dans Buffy vient de l'extérieur.
Oui.
Dans Vampire Diaries, l'ennemi vient de l'intérieur. Toutes les problématiques qu'ils ont sont avec les personnages qui existent déjà. Donc ils amènent de nouveaux personnages, mais c'est des gens qui font plus ou moins partie du groupe ou qui vont être intégrés au groupe. Par exemple, Catherine, ce n'était pas tenable qu'elle soit purement l'ennemi. Donc il fallait qu'au bout de donc cet épisode, ils la neutralisent pour en faire quelqu'un qui est une pseudo-ennemie qui va probablement devenir une forme d'allié dans le futur. Enfin, moi, c'est oui, à mon avis, c'est ce qui va se passer.
Oui.
Mais on est toujours dans un groupe interne. Dans Buffy, tu as le démon de la semaine. Donc tu peux t'accrocher au quotidien. Le problème, c'est que le quotidien qu'ils ont, c'est le quotidien du drame. Et c'est en ça que Vampire Diaries est entre Buffy et Gossip Girl, parce que ça marche comme un soap. C'est-à-dire que les conflits sont entre les personnages qu'on connaît. Blair déteste Serena, Blair et Serena sont meilleurs amis. Blair veut sortir avec Chuck, Blair veut sortir avec Nate, Serena veut sortir avec Nate. Tout tourne autour des mêmes personnages. Il y a quelques personnages qui rentrent dans la ronde, mais c'est généralement toujours les mêmes personnages. Et ça, ça se consomme très vite. Et cette surenchère, quand l'espace d'un épisode, il se passe 1 milliard de choses, c'est passionnant à regarder, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire « mon Dieu, à quoi va ressembler la saison 3 ?»
Pour moi, mon plus gros souci, au-delà de tous les autres soucis entre guillemets que j'ai dit, mais que j'aurais largement pu supporter... S'il n'y avait pas ce problème majeur, donc je vais vous parler maintenant, c'est le problème du montage. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est mettre les plans bout à bout, c'est-à-dire que comme vous voyez un film, il y a plein de changements d'angle, un gros plan où on est sur le visage, un plan général où on voit le paysage, un plan plus rapproché où on voit les épaules et la tête du comédien, une plongée où on est au-dessus, une contre-plongée où on est en dessous, enfin, il y a différentes échelles de plans et donc il y a quelqu'un qui après met les plans bout à bout avec un certain rythme. Et pour moi, dans la saison 1, c'était un vrai modèle de montage. C'est-à-dire qu'ils savaient quand est-ce qu'il fallait être rapide, ils savaient quand est-ce qu'il fallait être lent. Et surtout, les plans sont tellement travaillés, ont tellement de sens, sont tellement beaux, c'est ce qu'on disait dans le premier podcast, que là, d'un seul coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les plans sont toujours aussi beaux, ce qui est déjà une bonne chose, sauf que c'est insupportable pour moi. C'est-à-dire que des plans moches qui sont coupés toutes les 2 secondes, ça me dérange pas parce que je n'ai pas à lire le plan, je n'ai pas à interpréter le plan. À partir du moment où les plans durent, et franchement, c'est ça qui est terrible, c'est que même pendant les conversations les plans doivent durer à peu près 3 secondes sur chaque personnage, mais vraiment 3 secondes, hein. C'est pas pour ajouter, c'est vraiment 1, 2, 3, hop là, on change de plan. Et c'est comme ça tout le temps depuis le début de la saison, ça s'est un peu calmé dans le dernier, c'est pour ça que j'ai pas mal apprécié le dernier épisode, mais justement la surenchère dans le scénario et aussi à l'écran et dans le montage. Ça n'arrête pas, c'est tout le temps coupé. Et ça fait partie aussi du fait qu'il y a ça manque de pause. Pour moi, c'est insupportable à regarder parce que les plans sont très significatifs. Les réalisateurs font un travail énorme sur la photographie, les ombres, la lumière et sur aussi la façon de cadrer un plan. Et le problème, c'est que le monteur choisit systématiquement cette saison, de prendre chaque angle qui ont été filmés au moment du tournage pour construire la scène. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 5-6 angles, un gros plan sur chaque personnage de la scène, des plans généraux, 2-3 plans un peu plus esthétiques ou un peu plus significatifs derrière des barres, quand on veut dire qu'ils sont, ça représente l'enfermement, pour prendre quelque chose d'un peu caricatural, mais des choses comme ça. Et là, chaque scène, on a tous les angles. Tous les angles, donc en fait, un, ça va beaucoup trop vite, et deux, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun point de vue. Alors, choisir certains plans quand on fait du montage, ça veut dire qu'on veut signifier quelque chose. La tension, la pression, l'amour, enfin tout ce qu'on veut. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus de point de vue. C'est-à-dire que le point de vue au cinéma, c'est une question évidemment, ça se pose au moment du tournage, au moment du montage. Faire un choix de tel plan plutôt que tel plan au moment du montage, ça veut dire qu'on choisit de partager le point de vue de tel ou tel personnage, ou au contraire, de signifier telle ou telle chose de manière directe ou indirecte sur différents points du récit.
J'entends ce que tu dis sur la consommation, c'est ce que tu avais dit déjà la dernière fois, qui consommait, et qui était quelque chose qui nous avait beaucoup plu d'ailleurs, et qui continue à me plaire. Mais j'entends ce que tu dis, je dois dire que tu as un regard particulièrement aiguisé sur ce genre de choses. Et en y réfléchissant, ce que tu dis sur le montage, et notamment ce que je trouve très intéressant sur le manque de point de vue, ça me semble assez justifié. Il se trouve que les personnages et l'histoire, enfin les deux sont tellement forts que ça ne me dérange pas pour l'instant parce que il se passe trop de choses pour que je puisse m'y attarder, mais en même temps pas trop de choses pour que j'y croie plus.
Oui, pareil,
en
moi
même temps,
je...
Oui, non, Juliette.
Non, j'allais dire oui, effectivement, moi pareil. C'est vrai que ce début de saison, je l'ai pas vu, en fait, cette histoire de plan. Il y a des séries, bah, tu as parlé il y a 5 minutes, t'as comparé avec la saison 3 de Gossip Girl. Dans la saison 3 de Gossip Girl, j'ai eu le temps de m'en rendre compte qu'il y avait ce problème de plan, que c'était la façon dont c'était monté servait pas du tout le récit. Mais là, effectivement, les personnages sont suffisamment forts, les situations sont suffisamment. Il y a de l'émotion, il y a de l'action, et j'ai. Du coup, ça m'emporte sur vraiment le côté purement réalisation, et du coup, je l'ai pas vu. Mais effectivement, ça m'intéresse ce que tu viens de dire, et j'essaierai de re-regarder en ayant cette optique.
Je pense que un exercice que Yaël ou toi, ou même les gens qui nous écoutent, peuvent faire juste pour rigoler, c'est comparer deux scènes de la saison 2 et de la saison 1, deux scènes de dialogue, de discussion, et compter, par exemple, sur 2 minutes, le nombre de plans. Et je suis sûr que dans la saison 2, vous en trouvez quasiment le double que ce qu'il y avait dans la saison 1. Et surtout, je suis à peu près sûr qu'il y a autant de plans dans une scène de dialogue et de discussion tranquille dans la saison 2 qu'il y en a dans une scène d'action dans la saison 1. Ce qui est d'ailleurs fait quand on arrive aux scènes d'action entre Stephen, Catherine et Damon quand ils sont enfermés à cause du sort de Bonnie dans l'épisode Masquerade. Ce qui fait que ça m'a beaucoup fait rire parce qu'ils arrivent à une scène d'action. Ils ont déjà été tellement vite dans les scènes, je dirais, normales de dialogue, les scènes de vie, entre guillemets, que la scène d'action n'est pas à un niveau supérieur. C'est-à-dire que le montage ne peut pas accélérer plus que ça, parce qu'ils vont déjà tellement vite que les scènes d'action ne sont pas spécialement plus intenses ou plus rapides, ce qui est le cas, par exemple,
Pour moi, c'était un parti pris qui était de dire, pour eux, se battre entre eux, c'est presque au tome du quotidien. C'est-à-dire que c'est pas spécialement excitant, en fait. Mais c'est peut-être juste moi qui délire, hein. Mais en tout cas...
Non, effectivement, oui, tu l'as ressenti aussi comme ça, effectivement, donc tu le dis. Oui, effectivement, oui, c'était ce côté un peu... oui, presque... Bon, enfin, presque négligent, quoi. Bon, bah, je t'envoie dans le mur, quoi. Bon, c'est un... Ouais, c'est quelque chose d'habituel, quoi, de...
Très glory dans la saison 5 de Buffy. On peut vraiment pas s'empêcher de parler de Buffy.
Non.
Mais oui, donc ça m'a pas dérangé parce qu'il y a tout le reste. J'ai envie aussi de dire, et Je continue à dire que toutes les lettres de haine doivent aller à je déteste Juliette à gmail.com, mais pas à moi. J'ai des attentes particulières vis-à-vis de Vampire Diaries et j'ai des attentes qui sont probablement limitées sur le point de vue visuel. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, enfin j'adore cette série. C'est un vrai bonheur de la regarder. J'aimerais que plus de gens la regardent. Je trouve qu'au niveau narratif, il y a des tonnes de choses à dire. Mais je considère qu'ils font une concession esthétique au style CW, au côté glamour, magazine pseudo-fashion pour adolescents. Et j'ignore un peu ce côté-là. Voilà, ça c'est ma confession. L'autre chose, c'est qu'il me semble, David, que c'est ce que tu m'as dit sur beaucoup d'autres séries de la CW. Les premières saisons sont toujours très très bien réalisées. Et qu'à saison 2, saison 3, ils commencent à devenir super paresseux.
Oui, non, c'est
ça. Ça paraît très logique, c'est la saison 2 qu'ils fassent comme d'hab, quoi.
Oui, non, c'est ce que je me suis dit à chaque fois. C'est ce que je me suis dit à chaque fois, mais après ça, c'était pas aussi extrême. La saison 2 de Supernatural va un peu plus vite, c'est moins travaillé, mais ça restait quand même. C'était quand même très équilibré, on gardait un équilibre. C'était moins chiadé, moins poussé que la saison 1. Dans la saison 1 de Supernatural, il y a des plans grandioses. Ouais, bon, après, c'est que le récit était un peu plus plat, donc c'était pas non plus. Ils avaient besoin de compenser peut-être le récit par des plans magnifiques. Mais la saison 2 est bien équilibrée. C'est une réalisation très travaillée, qui n'a pas beaucoup de sens, soit dit en passant, mais très travaillée quand même, avec un récit qui fonctionnait. Donc les deux, bout à bout, ça me plaisait. Véronica Mars, une baisse en saison 2, et la saison 3, ça m'a tellement plu que je pourrais la re-regarder juste parce que ce sont des plans magnifiques. Bon, l'histoire m'a aussi beaucoup plu, mais la saison 3 de Véronica Mars, le niveau de la photo, c'est sublimissime. C'est peut-être ce que je pouvais faire sur la CW, parce qu'en tirant cette espèce de photo hyper contrastée avec beaucoup de jaune dans les lumières et beaucoup de noir et de marron dans les ombres, ce qu'ils ont fait dans Gossip Girl saison 2, et c'est ravissant. Non, mais en plus, c'est
juste ça. C'est un tissu que tu n'as jamais repéré quand tu es quelqu'un de normalement constitué qui n'est pas lui.
C'est ça qui m'énerve, en plus, c'est vraiment pas une question de réalisation. C'est que les plans sont toujours sublimissimes. C'est une question de montage, c'est que les plans sont sublimes et ils sont pourtant coupés. C'est ça qui m'énerve, c'est que les plans seraient moches, je me dirais je m'en fiche. Beverly Hills, il y a des plans très sympathiques, c'est pas trop mal filmé, c'est esthétiquement assez travaillé, il y a des efforts, c'est bien fait, c'est carré, les plans sont pas très significatifs, esthétiquement ça dit pas grand chose. Mais bon, c'est fait pour être beau, c'est la Californie, c'est la plage.
Excuse-moi David, mais j'ai trouvé un nouveau slogan pour notre podcast. Apprenez à détester les séries avec la vie de Juliette Riel. Apprenez à dire tout le mal que vous pouvez trouver sur une série.
Je pense que chez CW, il y a un monteur mauvais, pour dire ça poliment, qui était sur Gossip Girl saison 3 au début, que maintenant Gossip Girl est redevenu extrêmement bien monté et que le titre maintenant il est en peur d'Aerys. Je pense qu'il y a un...
Non, mais ce serait intéressant vraiment. Monté,
et de regarder. Bah non, mais c'est normal, je pense qu'ils ont toujours les mêmes prestataires pour faire le montage, ils doivent en avoir un qui est plus mauvais que les autres, et il tourne sur les différentes séries, et je pense que là, il est en perte d'Alice, puis il va peut-être aller après sur Smallville, c'est pas naturel, qu'il le mette sur Life Unexpected, la série est annulée, personne ne regarde, qu'il mette
là-dessus. Arrête ! Mais pour finir la conversation sur Vampire Diaries, épisode 1 à 10, je voudrais vous demander, une fois qu'on en a parlé, que tout vous est revenu à l'esprit, le truc que vous avez le plus aimé, le truc que vous avez le moins aimé. Donc on commence par le plus.
Ah, moi j'ai adoré toute la storyline autour de Caroline de façon générale. Justement, le moment dont on parlait avec sa mère, et enfin, tout ce qui est autour d'elle, et, étonnamment parce que je m'y attendais vraiment pas, m'a vraiment beaucoup séduit. C'est vraiment. Bah, en fait, bizarrement, je retiens toujours les personnages périphériques. Enfin, j'adore Damon, évidemment, mais c'est dans la saison 1, par exemple, j'avais beaucoup retenu... comment elle s'appelle, la pauvre
Bonnie ?
Non, la maman vampire et sa fille qui sort...
Longtemps, c'est génial, je la regrette, Anna et sa mère. Ouais.
Oui, c'est ça, j'avais adoré ces deux personnages, quoi.
Je pense que c'était incroyable. Pearl, elle
s'appelait Pearl, non ?
Pearl, c'est oui. Ça, Anna et Pearl, ouais. J'avais beaucoup aimé ces personnages. Je retiens toujours surtout les personnages périphériques.
Bon, écoutez, moi je vais vous dire. Hein, parce que c'est... Donc le Pictionary, clairement. Non, j'avoue que je l'ai vu venir, mais j'ai trouvé ça quand même super, super fun. La scène où Elijah, dans l'épisode 9, fait exploser la vitre du diner.
Ah.
Avec les pièces de monnaie qu'il a dans la main.
Ah oui, c'est génial comme idée.
Il y a une pièce de monnaie, et moi j'étais là, oh! Et je regardais ça avec une amie, j'étais là, il va faire exploser la vitre, il va faire exploser la vitre. Elle l'avait déjà vu, hein. Et au moment où il a fait exploser la vitre, c'était tellement joli comme image, ça m'a beaucoup plu. Voilà, je vais dire la même chose que d'habitude, le personnage de Damon. Le personnage de Caroline est génial aussi, mais le personnage de Damon, cette espèce de côté que dans le premier épisode de la saison 2, et c'est là que je me suis dit, mais ils vont aller où avec ça? En gros, il comprend, on lui dit clairement que personne veut de lui. Que ce soit Caroline ou Elena, elles veulent de Stephen et pas de lui. Je trouve ça très difficile à comprendre, mais bon, ouais. C'est comme ça. Et le fait que ça ne change pas son choix et son attitude, au contraire, parce que dans l'épisode 8, il y a cette scène qui est quand même... C'était facile, je sais, mais c'était quand même sublime quand il finit par lui dire qu'il l'aime, en lui disant qu'il a besoin de le dire, c'est super égoïste, mais il faut que ce soit dit, sinon ça va pas être possible de passer à autre chose. Et il lui dit, et ensuite il lui fait oublier.
Elle est horrible,
ça va être
trop triste.
C'est juste... Non, mais de toute façon, mais chaque fois que Elena arrive dans une pièce et qu'il est assis sur son lit, l'air triste, à chaque fois, c'est le moment, tu sais que là, tu vas t'en prendre plein la figure. Enfin, ouais. Tu sais que là, ça va être dur. Tu sais que ça va être trop dur. Donc voilà, ça, ce choix-là, le fait qu'il soit sans compromis, quoi. Qu'au moment où il sait qu'Elena est en danger dans l'épisode 10, il part la chercher. Cette scène incroyable à la fin de l'épisode 10, quand Elena essaye de récupérer Stephen et qu'elle veut rentrer dans la cave et que Damon l'en empêche et la retient et elle dit « Laisse-moi passer, laisse-toi passer !» Il finit par lui dire « C'est bon, t'as fini ?» Parce que... Bah voilà, parce que c'est... Il est au-delà de l'émotion et du drama, il est juste... non, c'est bon, c'est mon choix de l'aimer, c'est comme ça, et donc du coup, j'en tire les conséquences, et j'en assume les conséquences, et voilà. Et ça, je trouve ça... passionnant, quoi.
Ouais.
Puis, j'avoue que l'idée de Stephen et Catherine coincés tout seuls dans la cave, c'est pas mal non plus.
Ah non, mais le dernier épisode, j'ai adoré.
D'ailleurs, c'est toi qui m'as envoyé un texto en disant « Regarde !»
Oui.
Non, mais le dernier était pas mal.
C'était quoi le mot de passe sur l'ordinateur?
Kristen Stewart.
Oui, c'est ça, il me semblait bien. J'ai trop rigolé à ce moment-là, j'adore ça. Au moins d'une scène quand même relativement dramatique.
Non, et ce qui m'a fait rire aussi, c'était... Non, ce qui est génial, c'est à la fin, donc t'as le méchant qui arrive, il tue les autres types et il se barre. Oui. Et t'as Damon qui fait « Ok ». Et la semaine d'après, oui, c'est la dernière scène où Elena dit à Damon, pourquoi est-ce que tu crois qu'Elijah est parti sans nous tuer ou je sais pas quoi? Et Damon dit, si j'avais $1 chaque fois qu'un vampire malfaisant me surprenait, je serais riche. ça m'a fait beaucoup rire.
De toute façon, dans chaque épisode, il y a 150 000 répliques sur lesquelles je voudrais m'arrêter et les noter.
Donc voilà, dis-nous ce que tu détestes et ce que t'as aimé.
Bah, les moments que j'ai aimés, on en a déjà parlé, donc je vais faire très court, c'est la scène d'enfui, bonne mise en scène, originale, Elena, retour, qui enfin agit et réagit un peu, et la scène entre Caroline et sa mère, voilà, ça c'est pour ce que j'ai aimé, et les flashbacks aussi avec Catherine, enfin je l'ai trouvé assez réussi. Sinon, ce que je pense que j'ai pas aimé, bon, dans l'ensemble, bon, je pensais avoir déjà pas dit comme à ce que j'aimais pas, mais il y a un truc particulier, j'ai un petit... Enfin, qu'est-ce que c'est que ce putain de caniche de loup-garou qu'ils nous ont fait? On dirait un teckel, un petit teckel avec les yeux qui brillent dans le noir, enfin, c'est ridicule. Ils nous ont... Quand j'ai vu l'acteur débarquer, je me suis dit, ils ont fait exprès de nous avoir un acteur un peu baraque, un peu costaud, un peu sympa, et je m'attendais à quelque chose qu'elle laisse raccrocher, parce que c'est la seule fois où on a eu des loups-garous corrects, parce que même si j'adore Buffy, etc., les loups-garous dans l'ensemble, dans les séries, c'est trop...
Ouais,
c'est foiré.
Un grand moment de n'importe quoi.
C'est ça, mais un film qui avait réussi des loups-garous, c'était Wolf, avec Jack Nicholson et Michelle Pfeiffer. Et là, justement, ils gardaient un visage humain, en ayant des dents longues, les yeux qui brillent, et 2-3 poils en plus. Et justement, je m'attendais à ce que d'un seul coup, l'acteur ait l'air un peu moins prépubère. Et que, voilà, je pensais qu'ils allaient garder l'acteur, parce que tout l'intérêt des vampires, ils ont un visage humain. Et donc ça permettait, c'était une façon intéressante de faire des vampires, surtout ça permettait de voir l'acteur vivre au travers Et je m'attendais justement à ce que ce soit la même chose pour les loups-garous, c'est-à-dire qu'ils avaient très bien amené très bien réalisé les vampires à l'écran, d'un point de vue du maquillage, d'un point de vue de la mise en scène. Et ils avaient suffisamment de maquillage pour qu'on y croie, c'était suffisamment sobre pour que ça fonctionne et surtout qu'on voie l'acteur derrière vivre, exister. On sent justement que c'est un problème pour eux en fait.
Ouais.
Ils le vivent jamais franchement et on sent qu'ils ne sont pas eux-mêmes, qu'ils n'assument pas totalement ce qu'ils ont fait, qu'ils ne sont pas eux-mêmes totalement sûrs de leur choix au niveau de ce qu'ils ont fait avec le, avec ouais. le loup-garou. Et effectivement, c'est un peu.
Non, effectivement.
Juste, moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'était les deux, le traitement des deux pauvres filles qui étaient les filles qui devaient mourir pour Tyler et les autres.
Le...
C'est un fait,
ah oui, oui, oui.
Je
oui,
sais
oui.
même plus si c'était les mêmes ou pas, quoi. Les deux pauvres filles que tu vois d'abord avec Jeremy
oui,
et
tout.
Si, si, c'était les mêmes, oui.
Voilà. Bien que j'ai énormément apprécié la scène où Catherine tue la Black.
Ouais.
Et dit, et tu sais, où elle l'attrape et elle lui fait, elle lui, en gros, elle lui tord la nuque et elle dit, ou elle lui casse le dos.
Elle
lui
dit, paralysée.
Je peux finir ma phrase. Elle dit, paralysée enfin, de Western, enfin, les jambes paralysées, et elle refait crack et elle fait morte. Elle la jette dans les bras de Stephen au milieu de la foule du bal. Et ça, c'était quand même très drôle. Mm. Mais à part ça, c'était. Enfin ouais, c'était un peu dommage ces deux personnages, c'était un peu raté, tu vois.
Oui non effectivement ouais, c'était pas très. Bah,
tu sens qu'elles sont venues pour mourir quoi.
C'est ça, c'est un peu.
Par contre c'est moi où Bonnie est 15 fois plus belle que l'année dernière.
Oui oui.
C'est ce haut là avec cette incroyable décolleté qu'elle porte dans les deux derniers épisodes là, c'est ouf.
Ah bah, genre les scènes que j'ai beaucoup aimé la scène où elle trouve sa tante, où elle découvre que sa tante.
Oui
sa tante.
Oui moi aussi.
Ouais, par contre, pas bien que cette actrice, c'était un peu chelou, non?
Bah, on aurait qu'un transsexuel, mais un beau transsexuel.
Mais par contre, j'ai entendu ça dans sur un podcast hier, ça m'a fait mourir de rire, même si c'est très. Enfin, c'est pas très politiquement correct, en même temps, c'est pas de notre faute. C'était la question, c'est y a-t-il une raison pour laquelle toutes les sorcières et sorciers sont black?
Ah, bah, c'est exactement la question que je me pose depuis 10
ans. Ah, oui, oui, effectivement.
Je me suis posé la question. Bah, moi, je me suis dit.
Je pense qu'il y a une vraie raison, en fait.
Je pense que ça dépend, parce que justement, ça se passe en Géorgie, c'est par rapport à la guerre de sécession et justement à l'esclavage, en fait. C'est que, je pense que les sorciers ont dû commencer à prendre la sorcière. L'idée que le berceau de la magie, ça vient d'Afrique, et que c'est pour ça que, comme ils sont très très attachés à l'histoire de la région, je disais une interview justement de Yann Somerhalder et Paul Wessé qui disaient justement qu'effectivement, ils tournaient vraiment, ils tournaient pas à LA ou au Canada, ils tournaient vraiment dans cette région-là, et que justement, c'est très intéressant pour vraiment s'imprégner de l'histoire et des lieux. Et voilà, donc je pense que ça vient plus ou moins là, c'est qu'évidemment, c'est ça, c'est qu'indirectement, ça vient
oui,
des
anciens
esclaves, enfin, je pense
que c'est quelque chose qui existe, ça, c'est une mythologie qu'on a déjà vue dans d'autres, je sais pas pourquoi, mais je pense à Aix, spontanément, où il y a des scènes où effectivement on a la communauté noire qui a commencé avec le vaudou et qui petit à petit a évolué, a créé une magie de plus en plus subtile, et il y a cette idée effectivement que c'était un peu leur façon de lutter contre le pouvoir qui les avait oppressés, quoi.
Contre l'oppresseur, ouais, c'est ça.
C'est rigolo, parce que c'est vraiment un truc à double tranchant, parce que d'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, il y a aussi la lecture, les trucs, enfin, voilà, soyons clairs, il a été décidé que, par exemple, les Indiens avaient une âme en 1592.
Oui.
C'est là qu'on a décidé que le concile de... C'est pas le concile de Trente, je crois que le concile de Trente, c'est là où on a décidé que les femmes avaient une âme. À une
oui,
je tiens à préciser, en 1500 quelque chose, mais 100 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, il y a eu un concile comme ça, papa, avec je ne sais plus où dans la Suisse, où ils ont reçu deux Indiens et ils ont pris la décision est-ce qu'ils avaient une âme ou pas.
Oui, oui, effectivement. Non, mais je pense qu'en fait,
donc,
clairement...
La sorcellerie étant aussi quand même proche des idées sataniques. Enfin, vous voyez, si vous regardez des films comme Angel Heart, qui est un film absolument incroyable, et d'ailleurs dont Joss Whedon s'est clairement inspiré quand il a fait Angel, surtout la première saison et surtout le premier épisode, avec Mickey Rourke. Mm-hmm. Et Lisa Bennett, qui était celle qui jouait Denise dans Le Cosby Show, et qui d'ailleurs a fait scandale dans ce rôle parce qu'elle est à moitié nue la moitié du film, et notamment elle fait du vaudou, et il y a tout un délire aussi autour des trucs sataniques avec les communautés black du sud des États-Unis. Donc, enfin, voilà, c'est assez à double tranchant parce qu'il y a aussi le côté ils sont pas purs, c'est pour ça qu'ils font de la magie.
Non, mais je pense que si c'est voulu dans le sens que je vais dire, ça peut être une vraie intelligence, c'est-à-dire que on veut prendre un truc négatif, c'est-à-dire que clairement, on pense, et il a été dit depuis quelques centaines d'années, que la communauté noire fait de la magie, parce qu'effectivement, c'est des sorciers, ils sont dangereux, c'est un peu un peuple qu'on doit craindre, parce qu'ils vont faire des trucs méchants contre nous, et qu'ils le retournent en disant, dans Vampire Diaries, bah oui, mais finalement non, c'est aussi eux qui du coup ont la magie, c'est eux qui ont ce pouvoir et ce...
Pour se protéger des méchants blancs qui les oppriment.
Pour se protéger au contraire, etc. Et que du coup ça leur donne une sorte d'élévation.
Il y a un enjeu à un moment donné pour que ce soit, c'est ça.
Mais non, voilà, si c'est pour leur donner une élévation, là c'est très intelligent. Mais si c'est pas fait de cette façon-là, ça peut l'être beaucoup moins.
Enfin, ceci dit, moi globalement, l'histoire du père et du fils, pour l'instant je suis pas très très convaincue, c'est pas des personnages qui m'intéresse plus que ça, mais bon, on va voir ce qu'ils nous font avec eux.
Alors moi, je trouve le père, au début, j'ai beaucoup aimé le coup sur Salem.
Oui.
Ça m'a fait rire. Moyennement convaincant, le fils, encore moins convaincant. Ah oui, c'est le truc qui m'a fait halluciner, c'est dans le dernier épisode, quand t'as Stephen qui est au lycée dans leur casier, là, avec Jeremy, et ça fait genre 8 épisodes que tu l'as pas vu au lycée, Stephen.
Oui.
Et ouais. C'est juste hautement ridicule parce qu'il a vraiment rien à faire au lycée, quoi.
Oui, non, là, ça devient vraiment.
Parce que juste, enfin, tu vois, déjà, c'était difficilement crédible au début, mais là, il fait pas du tout l'âge du lycée.
Ah oui, non, mais clairement. Il a deux, trois autres trucs à s'occuper que ça, quoi. Enfin.
Mais non, enfin, j'ai trop pas compris, quoi, avec son pauvre sac à dos, là, c'était ridicule.
Oui, non, j'avoue.
Alors, si vous le voulez bien, on va maintenant arrêter de parler de la saison 2, épisode 1 à 10, et passer à notre petit bonus exclusif, épisode 11. Donc l'épisode 11 qui est, je le rappelle, le dernier de l'année 2010, et surtout le dernier avant la pause de Noël. On retrouvera The Vampire Diaries ensuite que le 27 janvier. Donc cet épisode 11 qui s'appelle By the Light of the Moon, à la lumière de la lune.
On se doute un peu de quoi ça va parler. Juliette, impression ?
J'ai beaucoup aimé cet épisode. J'ai trouvé qu'il était très équilibré. On voit bien tous les personnages et chacun dans son propre univers, si je puis dire. C'est un épisode qui est assez intéressant parce qu'il est à la fois... J'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses et en même temps, pas grand-chose. C'est-à-dire que pas grand-chose parce que tout l'épisode se passe en une seule nuit. Donc le resserrement du temps est assez intéressant, ça c'est assez différent. Je crois que c'est le premier épisode qui se passe dans un temps si court. Et donc du coup, ça fait l'impression que quand j'ai revu l'épisode un peu en diagonale pour me le remémorer, je me suis dit « Ah, ils font ça au début, ah, mais ils font toujours la même chose au milieu, ah, bah oui, vers la fin aussi. » Donc en fait, voilà, c'est cette impression vraiment que c'est une nuit, donc on a vraiment une continuité d'action dans l'épisode, et en même temps c'est une nuit où il se passe beaucoup de choses et surtout beaucoup de choses très essentielles. Toutes les scènes sont très importantes, que ce soit pour Tyler où évidemment c'est une étape très importante pour lui et qu'il franchit avec Caroline, que ce soit pour Elena surtout vers la fin de l'épisode avec Elijah, que ce soit pour Bonnie également, même si c'est peut-être la partie que j'ai le moins aimée, en tout cas c'est très intéressant et très important pour elle. Donc, et puis bon, Damon et Alric également. Donc voilà, enfin, il y a plusieurs choses très très importantes et la façon dont c'est structuré m'a beaucoup intéressée. Et après, bon, il y a plein de petites choses dans l'épisode qui m'ont beaucoup plu, on en reparlera. Et comme j'ai dit, des petites choses qui m'ont un petit peu moins accrochée. Mais bon, dans l'ensemble, très très bon épisode.
Ok, David ?
Un peu meilleur que le reste de la saison. C'était un peu plus posé dans le montage, dans la réalisation. Alors qu'en même temps, il se passe toujours autant de choses. J'étais très étonné d'ailleurs de voir que Julie87 a commenté notre dernier podcast en mettant justement qu'elle avait trouvé le numéro 11 un peu lent. C'était un peu ennuyé. Je me dis, oulala, effectivement, c'est peut-être pour ça qu'ils font des épisodes monter de manière très efficace. Effectivement, enfin, c'est peut-être un public qui est habitué aux choses rapides, mais moi j'ai trouvé qu'il était un peu justement un peu plus lent, mais bon, bien plus rapide encore que ce qu'était la saison 1 ou ce que sont d'autres séries de la CW. Et non, mais dans l'ensemble, j'étais dedans, ça m'a diverti, comme d'habitude, un peu comme Juliette. Une fois que j'ai éteint ma télé, je me rappelle pas vraiment ce que j'ai vu, ce qui est un peu, je dirais, entre guillemets, le défaut, c'est que je passe un très bon moment devant, mais après, ça me poursuit pas tellement que ça. Et en plus, j'ai vu l'épisode après avoir commencé True Blood, donc ça a été un peu compliqué.
D'accord, moi, je suis assez d'accord avec Juliette sur le fait qu'il se passe effectivement plein de choses, et en même temps avec David, entre les deux mon cœur balance, parce que c'est un épisode plus posé que les autres. Moi surtout, ce que j'aime dans cet épisode, c'est qu'il fait ce que je préfère dans les épisodes tournants, les épisodes charnières, qui sont généralement des épisodes juste avant des vacances prolongées, comme là, on va y avoir 6 semaines de pause. C'est que c'est pas seulement un cliffhanger, il y a un vrai tournant dans les relations des personnages. Et j'ai beaucoup aimé en fait le chemin que prenait l'histoire vis-à-vis de tous les personnages. Les décisions qu'ils ont prises m'intéressent, m'interpellent, me plaisent. Voilà, je pense qu'ils ont plus fait le choix de créer des connexions que de mettre des mises en danger, même s'il y a bien sûr une mise en danger claire. L'idée, c'est plus de montrer, voilà, ce groupe, il est constitué et telle personne est avec telle personne est proche de telle personne. J'essaie de ne pas faire trop de spoilers, mais plutôt que justement de faire que tout le monde se sépare, que tout le monde se déteste, qu'il y ait des conflits partout. Et je pense que c'est un pari intéressant et qui, moi, me donne envie de voir la suite.
Non, effectivement.
Donc voilà, donc après, la qualité de l'épisode en tant que tel, c'est pas... Webb et Larry, j'ai l'impression, est beaucoup trop haletant pour que j'arrive pour l'instant à me poser et parler d'une qualité d'épisode. C'est pas aussi une série qui va faire des épisodes vraiment thématiques. C'est une histoire, c'est une storyline, c'est des arcs. J'aime ce que cet épisode apporte aux arcs. Voilà, donc j'aime bien cet épisode. Au niveau purement de la dramaturgie de l'épisode, j'aurais du mal à me prononcer. J'aurais besoin de revoir tout la série pour pouvoir voir ce genre de choses. David ?
Non, bah moi, oui, non, ça m'a acheté, je me suis dit, c'est bien diverti, j'ai trouvé bon l'histoire de la carte de lune qui explose, et en fait, c'est pas vrai, bon, je l'ai vu un peu venir, c'était un peu léger, je dirais, mais bon, pour moi, ça définit un peu mieux les intentions des nouveaux personnages qui viennent d'arriver, mais après, ça, le rêve de comment il s'appelle, le rêve de Stéphane, au début on a envie de qu'est-ce qui se passe, on y croit un peu
oui plus, oui ça oui. Ouais.
Stéphane qui rêve qui couche avec Catherine,
qui couche avec Catherine, des gentils, qui prend Catherine contre le mur de la cave. Oui,
il y a des enfants qui écoutent.
J'ai rien dit, je n'ai dit aucun mot qui soit choquant, hein.
Mais non, mais voilà, non, mais j'ai trouvé que Cliffhanger très timide, c'est là où tu sens ce qu'on avait dit, c'est qu'ils font quand même pas extrêmement attention quand même aux périodes justement, je dirais, vis-à-vis des publicités, etc. C'est qu'ils auraient pu faire un Cliffhanger beaucoup plus énorme, mais bon, je trouve que Cliffhanger est comme il est, donc pareil, je l'ai vu venir, enfin à 3 km aussi, le côté en fait, c'est pas assez particulièrement instantanément, mais c'est plus ou moins qu'ils sont malades, c'est une espèce de venin qui coule dans leur sang, mais bon, enfin bon, c'était sans surprise, mais c'est sympa, c'était un très bon moment, c'était monté avec un peu plus de justesse, c'était bien fait, c'est sympa,
Tu es blasé, mais qu'est-ce que tu es blasé.
Bah, c'est vrai que moi, je me suis un peu attendue, surtout autour de Bonnie, enfin, à partir du moment où la magie commence à faire des mini-feux d'artifice, généralement, elle n'est pas très très effective. Donc voilà, c'est vraiment le truc où je me suis dit tout de suite, bah il est en train de la voir, la fille, et elle s'en rend pas compte. Et ils auraient fait quelque chose peut-être d'un peu moins spectaculaire, ils auraient pu m'avoir, puisqu'à la fin, pour le coup, j'ai vraiment eu un doute, et je me suis dit, bah non, finalement, si ça se trouve, ils ont réussi. Mais globalement, quand même, à la fin, je me suis dit, bah, enfin, bon, bah effectivement, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc c'est un peu, voilà, c'est la seule chose qui m'a peut-être un petit peu déçue dans l'épisode.
Ouais, mais l'idée de s'attendre à des choses, c'est pas... Enfin voilà, moi je trouve que le suspense... Voilà, moi je fais partie de ces gens qui n'ont pas aimé Lost, parce que juste le suspense pour le suspense, ça m'intéresse pas. Moi j'aime ce que ça raconte, j'aime le fait que la relation entre Caroline et Tyler soit en train de devenir réelle. Que cette chose qui paraît, c'est presque... construite de façon factice pour faire avancer le drame et créer un triangle avec Matt et Tyler, devient un moment réel. Ils ont partagé un vrai moment fort. J'aime le fait que Rose soit pas exactement qui... Enfin, qu'elle marche pas selon les règles de base des nanas qui débarquent dans des séries, qui sont soit la femme fatale, soit l'ingénue. Le fait que, par exemple, sa relation avec Damon soit construite sur le fait qu'elle est plus vieille que lui, et que c'est pour ça qu'il y a quelque chose de différent pour Damon. Ça, je trouve ça vachement beau. D'ailleurs, j'espère, s'il la tue, mais s'il la tue... Déjà, ils me l'ont arraché de Supernatural, alors que c'était mon personnage préféré. S'ils me l'enlèvent de cette série, je dis très fort, il faut qu'elle soit dans une autre série, quoi. Je la veux en personnage principal, je la veux toutes les semaines dans ma télé, je l'adore. Je ne sais même pas son nom, d'ailleurs. Quelqu'un connaît son nom ? Voilà, et moi, je trouve que cette idée-là est très bien. Effectivement, on le voit un tout petit peu venir, moi. Je ne suis pas dans l'anticipation, donc je ne l'ai pas vraiment vu venir. Là, à un moment, je me suis dit, c'est trop facile qu'elle lui explique tout de suite pourquoi qu'elle va devenir son amie et qu'il peut compter sur elle. Genre, il y a un problème quelque part, c'est trop beau pour être vrai, effectivement, bingo. Mais non, ça, j'aime. Ça, j'adore le fait que toute l'équipe soit devenue une équipe. Le fait que Caroline regarde Alaric pour que Alaric appelle Damon, que Damon fait « T'es où ?» Alaric lui dit « Je suis là » et l'autre, il fait « J'arrive ». Qu'ensuite, enfin, il y a cette espèce de Scooby Gang qui s'est construit, ça j'adore. Le fait que Damon et Bonnie et Jeremy enferment Elena dans la maison parce que Damon leur a dit. Et ensuite Damon dit bon bah tu devrais sortir dehors, ah tu peux pas, et que Jeremy rigole.
Ah bon, cette scène j'ai adoré.
Ça m'a fait jeter moi quand Elena. Quand Elena pousse Jérémy sur le sol, quand il s'allonge sur ses genoux, c'est justement le genre de scène un peu justement du quotidien, un peu légère, un peu sympathique, qui manque un peu et qui fonctionne très bien.
Ouais.
Et moi j'adore Alaric et Damon, avec Damon qui est super énervé parce que la loup-garou lui a dit l'a insulté. Et Damon qui dit à Alaric, enfin je sais plus ce qu'il dit à Alaric, mais bon en gros, je vais la voir, quelconque, machin. Et Alaric lui fait, mais non Damon, elle risque de te faire du mal. Et t'es là, mais t'étais pas censé le détester il y a genre 15 épisodes. C'est hallucinant, mais moi, pour moi c'est la plus grande histoire d'amour après Castiel et Dean dans Supernatural de la télévision, c'est Alaric et Damon.
Ouais, c'est vrai,
il a juste un énorme crush sur Damon, c'est impressionnant.
Ah, j'avoue, ouais. Ah, non, tu le dis, tiens, moi, ouais. Ah, c'est vrai, ça.
Putain, il se passe un truc tout de suite, Alaric prend son téléphone, allô Damon, il se passe ça, t'es où? Je suis au grill, j'arrive, ok.
Avant de conclure, est-ce que vous avez essayé les webisodes interactifs sur le
site
de Bedou?
Les webisodes interactifs?
Oui, mais moi, ils connaissaient pas mon prénom, alors je fais la gueule.
Ah, mais t'as pas dit « Hello Juliette ». Moi, j'ai eu un coup de pied quand tu m'as dit « Hello David », j'ai les choses dans mon ordinateur avec les yeux en vert,
c'est cassé. Eh ben ouais, il y a des préférences au momentisme.
Vous pouvez expliquer
pour les gens qui ne savent pas.
Parce que moi, je suis trop vieille.
Bah, sur le site de la CW, ils ont fait 4 webisodes qui, logiquement, auront des conséquences directement sur la série télé elle-même, bien que si on ne les a pas vus, je suppose que ce n'est pas très très grave. Ça donne quelques indices sur certaines histoires à venir, puisqu'il y a 4 épisodes avec Jérémy et Bonnie, on est un troisième personnage qui arrive dans la maison, donc en fait c'est une caméra subjective à la première personne, un peu comme dans les jeux vidéo, et on inscrit son nom Facebook, et logiquement beaucoup de noms étaient préenregistrés, donc on voit Jérémy, l'acteur, Steven et Amber Quinn qui dit « Come on David, come on Yael », enfin etc.
Ça m'étonnerait qu'ils enregistraient Yael, hein. Je serais très étonnée s'ils avaient enregistré Yael.
Donc voilà, donc il y a pas mal de noms enregistrés, donc voilà, tu participes, et tu dis, bon, les jeux eux-mêmes sont extrêmement faciles, ça arrive très facilement à résoudre leurs petites énigmes qui en sont pas vraiment en fait, mais ça reste très marrant, très interactif, assez bien fait, et surtout, puis voilà, ça développe certains autres aspects, et puis, à la fin, je dis pas aux gens comment ça se termine, mais ça ouvre sur, apparemment, une nouvelle storyline à venir dans la série. Et ça montre aussi à quel point les acteurs jouent très très bien, parce qu'évidemment, comme c'est des plans, des plans subjectifs à la première personne, c'est principalement des plans séquences, c'est-à-dire des longs plans, où les acteurs jouent donc sans coupe, et ce qui montre que les acteurs sont vraiment très bons parce qu'ils tiennent le coup et sont très très crédibles. Mmh. On a vraiment l'impression de parler avec eux, surtout ça montre qu'il n'y a pas besoin spécialement d'un montage hyper cut et hyper intense pour que ce soit vraiment prenant, parce que j'ai trouvé justement que les acteurs suffisaient à capter l'attention et être vraiment bons.
Voilà, oui, oui. Ouais.
Moi j'ai une toute petite remarque aussi sur mes découvertes d'internet récentes concernant The Binary. Ce qui n'a rien à voir, c'est j'écoutais le podcast de Entertainment Weekly, qui est un magazine que j'adore américain, et ils font un truc hebdomadaire sur la télé. Ils avaient comme invité Kevin Williamson et Julie, j'ai oublié son nom, la numéro 2 de Vampire Diaries, et je tenais à dire que voilà, Julie Plaigg, exactement, avec un G, c'est ça?
Avec un C, je crois.
Bon, elle. Et il disait que... il disait tout un tas de choses, mais surtout, moi, ce que je trouve important, c'est qu'ils avaient l'air vraiment, vraiment d'aimer leurs personnages, d'avoir à cœur leurs histoires. Ils ont cité deux fois Buffy. Wow. Parce que, apparemment, ils ont travaillé sur un spin-off ou une série qui serait plus ou moins liée. Et il y a quelqu'un qui a dit... Oh, il paraît que c'est X-Files, entre X-Files et Buffy, et Kevin Williamson a dit comment vous pouvez dire ça, comment est-ce qu'on peut être entre X-Files et Buffy, X-Files et Buffy sont aux antipodes l'un de l'autre. Et ça, ça m'a fait ultra plaisir, parce que c'est rare d'avoir quelqu'un qui dit ça. Donc moi, je suis complètement d'accord, mais c'est généralement dans les gens, voilà, ils ont tendance plus à assimiler ces deux séries qu'à les différencier. Donc ça, ça m'a fait super plaisir. Et ensuite, quand il parlait du prochain marathon Vampire Diaries à la télévision américaine, Julie disait « Ah, mais moi, c'est comme ça que j'ai découvert Buffy. Ah, » C'était un marathon sur la FX et je regardais deux épisodes par jour. Et donc, voilà. Donc ça, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit « C'est très bon signe, quand même. »
Ouais, parce que c'est vrai.
Bah, ça paraît très bien pour terminer le podcast. Voilà, on parle de Buffy. Quoi de mieux pour terminer un long podcast de fleuve en deux parties? Donc, bah, Yael, je vous laisse les mesdemoiselles, honneur à vous pour le dernier mot.
Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Donc, sur effectivement ce podcast fleuve, monter, remonter. Ce qui compte, c'est qu'on vous ait dit tout ce qu'on avait sur le cœur. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez sur le cœur dans les commentaires, sur le site, où vous voulez. Ça nous fait toujours ultra plaisir. Mm-hmm. Et nous allons vous retrouver pour le jour de Noël, parce que nous avons décidé que les podcasts étaient le samedi, généralement. Donc on aura un numéro spécial, les choses qu'on a préférées en 2010. Il y aura du vampire, mais il n'y aura pas que du vampire, il y aura plein d'autres choses. Donc surtout, surtout, écoutez-nous, que vous puissiez aussi nous dire ce que vous avez aimé en 2010. Et on aura, pour le jour de l'an, un épisode...
spécial True Blood, saison 1.
Parce que comme vous avez suivi sur Facebook, ça y est, David a vu True Blood.
What?
Et donc on parlera de True Blood, et après on verra, on parlera toujours, je pense, de True Blood et de Vampire Diaries, d'une façon ou d'une autre. Mais on vous parlera aussi peut-être d'autres séries.
On nous a demandé aussi un spécial Buffy, donc on essaiera de parler de Buffy aussi.
Oh, ça va être dur.
Ouais.
Voilà, David et moi à parler de Buffy. Je sais pas
là,
si...
là, il faut à peu près 5, 6, 7 plages horaires, 10 heures.
Je pense que, sachant que les comics, la saison 8 de Buffy se termine, effectivement, il sera de bonnes augures de faire un spécial Buffy saison 8.
Ouais.
À la fin de la saison 8. Voilà.
Cool.
Donc je vous souhaite sur ces bonnes paroles une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, un bon café, ça dépend où vous en êtes, et surtout à très très vite. Au revoir.
Au revoir. Is it dark where you are? Can you count the
stars where you are? Do you feel? Silence, moteur, la fin, action. 1,000 miles from home. Are you lost where you are? Can you find your way when you're so? Do you fear where you are? 1,000 miles home. So here we are, set into motion. We'll steal a car and crash.
Là, le podcast est très 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 long. On peut en faire 3-4, je pense.
Ah.
on the longest night. It's enough.
Sachant qu'il n'y a probablement plus qu'une seule personne qui est toujours en train d'écouter.
Bravo à toi.
On peut poser une question à la fin et voir si les fans répondent, et si les fans répondent juste, on leur donne un cadeau.
Qu'est-ce qu'un mistouflon?
Mais en attendant, ils peuvent évidemment proposer sur les commentaires, qu'est-ce, voilà, dites-nous
la
si
réponse.
Vous trouvez, qu'est-ce qu'un mistouflon.
Et je mettrai probablement en ligne aussi la photo de combien j'ai tricoté de l'écharpe de Juliette pendant ce podcast. Where you are, can you count the stars where you are?